Voilà. Il n'a pas été beaucoup question d'interdisciplinarité, mais elle va naître peut-être du dialogue. En particulier, je voudrais m'adresser à ceux d'entre vous qui mènent des études actuellement, qui comportent des enquêtes également, peut-être à François Mérès et Joël Marek, ou bien à vous-même, pour faire peut-être la comparaison que vous avez dû faire en entendant la présentation de ce protocole d'enquête, savoir si c'est comparable, si travaillant sur des objets différents, sur des corpus différents et avec des publics différents, vous avez des procédures qui sont différentes également.
Je ne sais pas si... Oui, alors, si je peux me permettre, j'ai le sentiment que... Je ne sais pas si ça s'appelle interdisciplinarité, là, mais enfin, si dans la mesure où vos disciplines, oui. Vous deux, ont permis le déploiement d'un protocole qui n'est pas interdisciplinaire. Enfin, c'est mon interrogation. C'est-à-dire qu'il y avait un protocole que tout le monde partageait, voilà, avec une entrée principale, et ce n'est pas à ce niveau-là qu'il y a l'interdisciplinarité. C'est parce que vos regards, vos expertises, vos travaux scientifiques permettent vraiment la mise en œuvre du protocole d'enquête. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments de témoignage, mais ce que j'ai entendu là maintenant, oui. Je l'ai plutôt perçu de cette manière.
Oui, peut-être. Peut-être d'une certaine manière. Parce que j'avoue quand même que je suis arabisante et j'ai passé toute mon enfance et ma jeunesse dans un pays qui est arabe. Et quand je suis arrivée pour poursuivre mes études, et quand même il y a une culture qui est certainement un peu partagée, une culture arabo-musulmane, même si avec beaucoup de apprendre avec beaucoup de pincettes, mais dans le processus ou l'élaboration du protocole de recherche, on faisait beaucoup attention à certaines formulations. Par exemple, je me rappelle très très bien. Au moment de la rédaction des mails pour entrer en contact avec les étudiantes, par exemple, le fait d'écrire cordialement ou bien cordialement, ou des choses comme ça, des formules de politesse à adopter pour avoir plus...
C'est exactement ce que j'ai entendu, c'est ça. C'est-à-dire que votre expertise permet vraiment la stabilisation et le déploiement du protocole d'enquête sur le terrain.
Oui, ça c'est un exemple qu'on peut donner d'une manière globale. Et que ça nécessite même le fait de parler, de conduire des entretiens, de partager des choses qu'on le sait déjà avec les encotés, de se livrer quelque chose pour pouvoir... faire ressortir d'elle aussi certains usages, certains pratiques, choses qui, par exemple, nous explique Hélène Bourdelat, c'était très difficile pour elle à un certain moment de conduire des entrevues en Arabie Saoudite, même si elle les conduit en langue anglaise, mais elle sentait qu'il y a une certaine barrière de langue parce que elle s'exprime quand même mieux par leur langue arabe, par leur langue maternelle, et on peut faire sortir d'elles plusieurs choses que dans des langues qui sont un peu secondaires.
Enfin, juste, je complète. Ce que je veux dire, c'est que ce serait sur un autre objet d'étude que la photo archivée sur Internet, ce serait exactement la même chose. Vous voyez, c'est ça. Enfin,
en partie, sûrement, parce que j'ai conduit une autre recherche en Tunisie, par exemple. Et j'ai dû avoir la même approche, les mêmes pensées, les mêmes réflexions. Après, c'est vrai que le sujet est particulièrement sensible pour elle aussi. Parce que, comme on l'expliquait, le rapport à l'image est assez problématique. Et une fois sur le net, c'est encore pire en quelque sorte. Donc oui, c'est vrai que...
Mais à l'intérieur même en fait, de la discipline, alors je parle au niveau des SIC par exemple, c'est tellement vaste comme territoire que j'ai parfois plus de mal à comprendre quelqu'un qui serait pourtant des SIC parce qu'à l'intérieur, il y a déjà tellement de choses et de terrains différents et de sous-interdisciplinarité, etc. D'un autre côté, forcément, mais on en parlera, alors notre recherche, on va l'évoquer dans quelques minutes, mais... il y a aussi une interdisciplinarité au niveau d'abord des chercheurs eux-mêmes qui amènent un certain nombre de discussions. Dans notre cas, c'est aussi des enquêtés, c'est-à-dire en fait de la position à partir de laquelle ils vont parler. Quand on interroge des chercheurs, forcément, ça. Et puis aussi dans la restitution, et donc dans la communication qu'on va avoir, on a un troisième niveau d'interdisciplinarité qui est la discussion qu'on peut avoir au sein du DPN. Et, toute cette question-là, elle amène en fait à s'interroger sur ce mot qui est sans doute plus complexe et plus peut-être plus embêtant finalement qu'intéressant, qui est l'interdisciplinarité, parce qu'on se rend bien compte à quel point c'est un mot piège en fait.
On peut peut-être l'exprimer en termes de compétences, c'est-à-dire quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour comprendre un usage. Enfin, ou un usager en l'occurrence. Alors, on a vu qu'il y a la langue, mais la culture aussi, sans la doute, culture. Des connaissances des cultures, méthodes sociologiques, connaissances techniques aussi, forcément, puisqu'on analyse des usages digitaux. Donc, il y a un certain nombre de compétences. Alors, est-ce que ces compétences ressortissent à des disciplines ? Peut-être pas toujours. Dans vos études, par exemple, dans votre cas, votre connaissance de la langue arabe, c'est votre langue maternelle.
Oui, je suis bilingue.
Donc, est-ce que vous avez fait des études spécifiquement d'arabe ou vous avez utilisé vos compétences linguistiques en faisant un autre cursus ? Vous avez fait un cursus de sociologie, je crois.
J'ai fait un cursus de sociologie, mais c'est en langue française. Mais l'arabe, elle était toujours ma langue maternelle et je suis bilingue. Voilà, j'écris et je lis en... C'est la langue courante.
Donc c'est vrai que parler d'interdisciplinarité, c'est délicat, puisque c'est une compétence, certainement, de votre part, mais pas forcément une discipline au sens des cursus. En revanche, vous avez fait des études de langue et civilisation arabe.
Oui, effectivement, oui. Après, c'est vrai que l'expérience sur le terrain, c'est ce qui apprend peut-être le plus. Et donc, effectivement, j'ai passé un an à Beyrouth et beaucoup de temps en Tunisie. Et donc, pour l'approche effectivement directe, ça m'a beaucoup appris. Mais bien sûr, toutes les connaissances sur la culture m'ont aussi aidé, que j'ai étudié en littérature arabe, en rapport à la langue, en rapport... Ça a été très utile aussi. Voilà,
c'est à mettre en relation avec ce que Florent Laroche disait tout à l'heure sur la nécessité de l'éducation et de l'enseignement.
Mais...
Alors, Fabrice, tu voulais intervenir
ça rejoint la même chose. On parle en fait de discipline, de culture, là. Je voudrais témoigner d'un travail que j'ai effectué il y a quelques années, sauf que c'est sur la langue arabe. Mais pourquoi c'est intéressant ? Parce que je parle pas arabe du tout, et donc c'est très éloigné de ma culture, et je voulais faire un analyseur morphologique, c'est-à-dire que je voulais faire un système informatique qui était capable de reconnaître les écrits, d'analyser un mot écrit en arabe. Je me suis trouvé confronté à une culture morphologique complètement différente de la mienne, donc c'était compliqué. Donc je travaillais avec ce qu'on appelle en linguistique un informateur, c'est-à-dire que je travaillais avec un arabisant, et je lui disais, décris-moi ta langue. Et c'était très très difficile, et justement, je me suis posé, alors c'était, je suis arrivé à des résultats, mais je n'arrive pas à voir quelle est à mesurer exactement la difficulté, où se trouve la difficulté. Est-ce que c'est culturel, dans le sens où, par exemple, il y a un truc très étonnant pour un francophone pas fort comme moi, qui est le passé négatif. Donc quand on me dit qu'il y a un passé négatif, j'ai une espèce de trouble cognitif. Et mon informateur, pour lui, ça ne pose pas de problème. C'est-à-dire que, Et je me suis trouvé plein de fois à travailler avec une personne, et au bout de 2 heures, j'entends une information, je dis, mais ça, je t'ai posé cette question-là il y a 2 heures, pourquoi tu ne l'as pas dit ? Et donc, est-ce que la difficulté tient à la discipline ou à la culture ? Est-ce que pour lui c'est des choses naturelles et donc il ne s'est pas forcément besoin de le dire ? Donc, là, j'ai l'impression que dans mon exemple là, que je suis en train de vous livrer et dans le travail que vous avez fait effectuer, on a une espèce de mix entre discipline et culture que je n'arrive pas tellement à démêler.
Oui.
Oui.
Ce que je trouve vraiment intéressant dans cette recherche qui a été présentée, c'est la finesse et la capacité de compréhension qu'il faut avoir en fait pour aller approcher ces femmes et aller leur poser cette question, où ça nécessite justement de la part de chacun des chercheurs une grande, grande richesse, que ce soit culturelle ou que ce soit disciplinaire, pour pouvoir mener ça bien et mieux interpréter les réponses qui ont été données. Parce que c'est ça, parfois on pose une question, mais en fait on ne l'a pas posée avec les bons termes. On va recevoir une réponse, mais on ne va pas la comprendre parce qu'on n'a pas justement cet étendard de capacité, de connaissances et d'outils pour comprendre ce qui a été dit. Donc c'est là où l'interdisciplinarité et au sens plus large, en fait, la richesse de chacun des chercheurs entre en jeu et permet en fait d'aboutir à des choses vraiment intéressantes plutôt que de bloquer parce qu'il y a des problèmes de communication.
Oui.
C'est plutôt pour la première communication et sur l'interdisciplinarité. Du point de vue de la Direction générale des patrimoines, notre implication dans la recherche, elle est motivée aussi, au-delà de l'interdisciplinarité qui s'impose évidemment aujourd'hui, entre les sciences humaines et sociales, les sciences expérimentales et les sciences du numérique, c'est celle de la mixité des équipes de recherche qui travaillent sur nos thématiques et qui associent dans le meilleur des cas des chercheurs académiques et des professionnels du patrimoine. Et la réflexion qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant, ce serait qu'une prochaine étape de vos travaux puisse associer dès l'origine, c'est-à-dire dès la définition du projet de recherche, des professionnels du patrimoine. Et pour nous, c'est vraiment la garantie que les résultats soient directement appropriables et puissent avoir un effet concret dans l'exercice de nos missions. Vous parliez d'élaboration de cahiers des charges, ça c'est effectivement un objectif qui nous intéresse énormément.
Je pense que Florent Laroche a déjà travaillé de cette manière. Par rapport au projet sur les trois ans qui sont venus cet an pour le plan relief interactif, ou quand, par exemple, on mène une enquête sur le terrain avec une équipe, donc avec une discipline, mais en fait, on collabore avec les professionnels sur place. Oui, c'est pas tout à fait la même chose.
Ce qui est intéressant, c'est de co-construire le projet de recherche.
Le projet en tant que tel.
En définissant ensemble les
Pour les protocoles, oui. Écoutez, je vais vous proposer de s'arrêter pendant 5-10 minutes.